La Judith de Bialopol par Léopold Sarrar-Mazor. Pendant que la Pologne se trouvait déchirée par les discussions intestines, les luttes et les désordres, les Turcs avaient conquis l'Ukraine, la Podolie et Port-Kamenitz, obligeant le roi Michel Wisniewski à signer une paix honteuse qui abaissait la République sarmate au rang d'état vassal et tributaire du croissant. En cette situation malheureuse, les regards de tous ceux qui ne se laissaient pas aveugler par l'intérêt personnel se tournèrent vers l'hetman Johann Sobieski, lequel, à plusieurs reprises, s'était distingué dans les combats contre les Turcs et les Tartares, tant par sa bravoure que par son talent de chef d'armée audacieux. Sobieski poussait la noblesse à l'union et à une action énergique. Transformant tout ce qu'il possédait en écus sonnants, il équipa des troupes à la tête desquelles, sans souci des traités, il entra en campagne contre l'ennemi héréditaire de la chrétienté. Les luttes les plus sanglantes éclatèrent à nouveau, et cette fois, Sobieski fixa la victoire au drapeau polonais. Il infligea aux Turcs une série de défaites, la nation le proclama son sauveur et son héros. Quand le roi mourut, en 1675, Sobieski fut élu à l'unanimité. Il reçut la couronne en sortant du camp, et après avoir reçu le sacre avec toutes les formalités réglées par la Constitution, retourna au camp achever la libération du pays. Mais la fortune infidèle lui tourna le dos. Le nouveau roi avait pris position près de Zoravno, dans l'intention d'y livrer bataille. Le grand vizir évita de l'attaquer, se contentant d'appeler à lui toutes les troupes turques des environs et d'entourer l'armée polonaise de forces 10 fois supérieures. La situation de celle-ci devint de jour en jour plus désespérée. Lorsqu'enfin, vivres et munitions commencèrent à manquer, les plus courageux abandonnèrent tout espoir de salut, et les musulmans rêvèrent d'emmener le royal héros prisonnier à Constantinople et d'exposer la fière noblesse de Pologne sur ses marchés d'esclaves. Tandis que près de Zoravno, la faim se faisait le meilleur allié des Turcs, des hordes de mahométans s'unissaient aux Tartares pour parcourir la contrée, pillant et incendiant la campagne, attachant femmes et enfants derrière leurs chevaux. Le 5 novembre, de nombreux gentilshommes et paysans fugitifs se réfugièrent avec femmes et enfants dans la petite ville de Bialopol, racontant aux starostes qui les accueillit les choses les plus terrifiantes sur les procédés impitoyables des vainqueurs. Le vaillant guerrier, qui avait blanchi dans les luttes contre les Tartares et les Turcs, prit aussitôt toutes ses mesures pour défendre le château et aussi longtemps que possible la ville. Les remparts furent garnis de canons, les hommes valides de la noblesse, de la bourgeoisie et du ghetto équipés, et les vieillards et les femmes consignés au château, dont la défense fut confiée aux seuls soldats du roi, sous les ordres du staroste. Le 7 novembre matin, un paysan à cheval apporta la nouvelle de l'approche de l'ennemi. La ville de Bialopol était à tel point bondée de fugitifs qu'il eût été impossible d'en laisser pénétrer un de plus sans exposer la ville au plus grand danger. Aussi ferma-t-on les portes et plus personne ne fut admis. Une foule de malheureux de tous rangs, arrivés après la fermeture, se blottirent au pied des murailles. Les manias signalés par la somptuosité de leurs contouches, de belles jeunes femmes en pelisse de martre brodée d'or, des paysans pieds nus vêtus de toile, des juifs en cafetan noir. Leurs cris, leurs plaintes et leurs lamentations déchiraient le cœur des habitants de la ville, le staros demeura inébranlable. Il était contraint, sous peine de livrer la ville entière au sort misérable qui attendait les malheureux sans-abri. Lorsque ceux-ci comprirent qu'ils n'avaient rien à espérer, une partie d'entre eux se réfugièrent dans les forêts voisines, tandis que les autres, massés aux portes de la ville, attendirent avec une sorte d'indifférence stoïque leur destin. À l'entrée de la nuit, on vit s'élever à l'horizon les flammes d'une vingtaine de villages incendiés. Les sinistres lueurs éclairaient le ciel hivernal et les gigantesques colonnes de fumée semblait avertir les habitants de Bialopol, les encourageant à une résistance opiniâtre, au combat à mort. Peu de temps avant le lever du soleil, les premiers cavaliers tartares passèrent sur le petit cheval noir, semblable à des esprits infernaux, sur la grande plaine blanche couverte de neige. Quelques-uns s'approchèrent de la ville avec curiosité, espionnant ce qui se passait autour des remparts. On reconnaissait distinctement leurs maigres visages jaunes et leurs petits yeux fendus sous les rouges bonnets carrés. Un coup de canon suffit à les disperser, mais au bout de quelques heures, ils revinrent plus nombreux et galopèrent autour des murs en masse noire et compacte. Il en venait à chaque instant de nouvelles hordes, Finalement, un chef s'avança, sommant la ville de se rendre. Le staroste fit répondre que la ville et le château étaient armés pour se défendre et approvisionnés de munitions pour plus d'une année. Le tartare fit étinceler son sabre courbe au soleil et retourna auprès de ses cavaliers. Ils semblèrent se concerter, puis tout à coup, élevèrent des cris de guerre sauvage et assaillirent la ville de tous les côtés à la fois, décochant leurs flèches qui tombèrent comme une grêle. La garnison répondit par des coups de canon et d'arquebuse. Des deux côtés, il y eut des morts et des blessés, mais les sauvages enfants de la Crimée ne prenaient pas le siège au sérieux. Leurs intentions étaient tout autres. Au galop, ils s'approchèrent des fugitifs tassés sous les murailles et en proie à une terreur croissante et lancèrent sur eux leurs lacets. Quand un des sinistres cavaliers avait ainsi capturé sa victime, il s'en retournait, la traînant impitoyablement après lui. Les défenseurs de la ville qui assistaient à ce déchirant spectacle aperçurent au loin des scènes plus cruelles encore. Ils virent les cavaliers traquer les fugitifs cachés dans la forêt, massacrer les hommes, accoupler femmes et enfants comme des chiens et les emmener en esclavage. Dans le courant de la journée, des hordes plus nombreuses arrivèrent et établirent leur camp hors de la portée des canons. C'étaient des Turcs. Leur chef, un chat, fit à cheval le tour de la ville, cherchant à se rendre compte de la résistance qu'elle pouvait offrir. Le soir, on vit briller au loin les feux de bivouac musulmans. Ils formaient un vaste cercle flamboyant autour de la malheureuse Bialopol, tandis qu'un autre cercle, plus vaste, était formé au loin par les villages et les fermes en flammes, bordant l'horizon d'une ligne de feu et embrasant le ciel. Un profond silence régnait dans le camp, et cependant personne dans Bialopol ne put fermer l'œil. Chacun se préparait à sa manière à la défense de la ville contre les barbares assiégeants. Une activité fiévreuse régnait dans les étroites ruelles de la cité juive, dont les habitants manifestaient un courage et un esprit de sacrifice imprévu. Parmi les maigres et pâles hommes du ghetto se trouvait le riche marchand Abrahamek, occupé, tout comme ses coreligionnaires moins fortunés, à se préparer au combat imminent. Il était jeune encore, et grâce à l'aisance que lui avaient laissé ses parents, vigoureux et imposant, comme les Juifs de cette époque ne l'étaient que rarement. Son visage portait le type fortement marqué de la race juive de Palestine, aux belles et nobles lignes exprimant un mélange sauvage d'intrépidité et de ruse avisée. Une fierté s'y mêlait, comme l'orgueil d'une race pure et privilégiée de Dieu, signe qui avait graduellement disparu à mesure qu'Israël s'était transformé d'un peuple libre de pasteurs guerriers en une nation de marchands. Abrahamek portait, sur le long talar de soie noire, habit de prédilection de ses coreligionnaires riches, un large caftan de même étoffe bordé de sombres et précieuses fourrures. Un béret de velours noir posé hardiment sur les petites boucles de sa chevelure, un long poignard turc était passé dans son écharpe rouge. Il s'occupait à charger deux grands pistolets à roues pendant que ses gens, au nombre de 14, fondaient des balles et mettaient en état les énormes arquebuses dont on se servait à cette époque, ou encore aiguisait sur une meule les pointes des longues lances dont leur maître les avait armées. Tout à coup, la porte s'ouvrit et une jeune femme, d'éblouissante beauté, pénétra brusquement dans la salle. Elle venait évidemment de se lever, car elle n'était vêtue que d'un peignoir et tenait à la main une veilleuse. Sa taille élancée et fière, les formes de ses membres arrondis, le contour moelleux de ses traits, l'eussent fait paraître semblable à la fiancée du cantique, la rose à peine épanouie de Saron, si son maintien énergique et dominateur, et ses yeux étincelants, ne lui eussent donné l'aspect d'une guerrière et d'un héros. Elle posa la lampe sur la table, et considérant d'un air contrarié les hommes occupés avec les armes, elle dit « Que signifie cela ? On m'envoie coucher quand le danger nous menace, que chacun s'apprête à risquer sa vie et à répandre son sang. Je ne suis pas femme à demeurer cachée pendant que les hommes offrent leur poitrine aux armes ennemies. Je veux partager avec vous le combat et la victoire, ou la défaite et la mort. Ma bien-aimée Judith, repartit le jeune négociant, ma femme, ma douce épouse, pour toi, je vais tranquille au-devant des flèches des Tartares, pourvu que je te sache en sécurité. Mais ma main faiblirait, mon cœur tremblerait comme un cœur de lâche, si tu te tenais à mes côtés dans le combat. La juive secoua avec humeur les boucles noires de sa chevelure. Et quel sera mon sort? Si vous êtes vaincu et si l'ennemi pénètre dans la ville, me faudra-t-il suivre en esclave un de ces impies et baiser ses lèvres altérées de sang? Je veux vivre et mourir auprès de toi. » En vain, son mari tenta de la faire revenir sur sa décision. Judith s'empara des sacs remplis de poudre et de plomb, déclarant avec une obstination contre laquelle les prières et les raisons se trouvaient également impuissantes, qu'elle accompagnerait les hommes sur les remparts et chargerait leurs arquebuses. En un clin d'œil, elle changea son peignoir contre une jupe en damas de couleur richement brodée et une courte tunique d'étoffe persane bordée de peaux de martre, et entrelaça ses traits sombres de plusieurs rangs de perles. Ainsi, parée de son mieux, elle accompagna Abrahamec sur les remparts. La nuit fut calme. L'ennemi ne tenta aucun assaut. Mais à peine le soleil parut-il, sanglant à travers les branches couvertes de neige, des sapins, que les canons turcs se mirent à tonner. Les assiégés répondirent loyalement. La canonnade dura plusieurs heures, sans résultat appréciable ni grande perte de part et d'autre. Personne, dans Bialopol, ne se faisait d'illusions sur la résistance prolongée des petites et minces murailles. Mais ce n'était pas la manière des Turcs, ni de leurs alliés nomades, de réduire une ville par la persistance. Ils tentaient de s'en emparer du premier coup et, en cas d'insuccès, s'en retourner aussi brusquement qu'ils étaient venus. Ils agirent de même à Bialopol et n'attendirent pas d'avoir ouvert une brèche pour déployer le drapeau rouge et donner l'assaut au milieu du bruit assourdissant des timbales, des trompettes et des tambours. L'attaque se fit de tous les côtés à la fois, afin d'occuper tous les défenseurs en même temps et de les induire en erreur au sujet du but visé. Après que les assiégés eussent, en plusieurs endroits, approché les remparts et commencé à les escalader en montant sur les épaules les uns des autres, une troupe choisie de fantassins du pacha, qui commandait la petite armée des assiégeants, s'élança sur la porte orientale et, avec des invocations à Allah, s'empara du petit fort en forme d'angle obtus qui la protégeait, massacra les hommes qui le gardaient et attaqua la porte en l'entamant à coups de hache et de bélier. Mais le staroste avait prévu le cas. Derrière les battants fermés s'élevait une sorte de barricade et de hauts retranchements obstruaient l'entrée de la rue. À peine les musulmans eurent-ils enfoncé la porte qu'ils se heurtèrent donc à un nouvel obstacle, tandis que tous les défenseurs de la ville se précipitaient du côté menacé. Sitôt qu'un assaillant se montrait au haut de la tranchée, il voyait les lances des assiégés braquées sur sa poitrine et se trouvait rejeté, mort ou vif, du côté d'où il venait, tandis que les combattants restés au pied de la ville se trouvaient inondés de flèches, de poids et d'eau bouillante. Au haut des remparts, la belle Judith Abrahamec chargeait les fusils pour les hommes du ghetto. Sitôt qu'un assaillant réussissait à prendre pied, échevelé, les joues en feu, rendues plus belles encore par son ardeur guerrière, elle s'emparait soit d'une pierre, soit d'une hallebarde, et les lançait contre la tête chauve ou la poitrine du fils de païen qui tendait vers elle ses bras avides. La fumée et la poussière que faisaient les pierres en tombant et la poudre en éclatant empêchaient les défenseurs de bien voir les résultats du combat. Tout à coup, une partie importante des remparts se trouva aux mains de l'ennemi. Bourgeois et juifs qui, réunis, défendaient la porte de la ville, se trouvèrent inopinément assaillis de dos. Saisis de panique, beaucoup prirent la fuite à travers les rues, tandis que d'autres se retiraient en combattant. La ville paraissait perdue, la voix encourageante de l'héroïque juif se trouvait couverte par le tumulte, lorsque le staroste se précipita avec une partie de la garnison du château, du côté menacé, effectuant une sortie aussi fougueuse qu'inattendue. Le pacha stimulait en vain la bravoure de ses soldats. En vain il ramenait les fuyards à coups de fouet sur le lieu du combat. La journée était perdue pour les infidèles. Turcs et Tartares, ne songeant plus qu'à leur salut personnel, se réfugièrent sous leurs tentes, poursuivis par les balles et les boulets des assiégés. La terre, au loin, était jonchée de morts et de blessés, le sang formait des ruisseaux pourpres dans la neige. Au haut des remparts, cependant, la lutte se poursuivait. Les souples musulmans fauchaient avec leurs yatagans, d'une manière terrible, les rangs des chrétiens et des juifs. Ceux-ci, en retour, ne faisaient point merci, et massacraient tout ce qui leur tombait sous la main. Au milieu de la mêlée, un Turc allait frapper Abrahamec. La belle Judith, n'ayant point d'arme à sa portée, lui jeta du sable dans les yeux. L'arme du soldat dévia, Judith la lui arracha, lui jeta un lacet autour du cou et le fit prisonnier. Des cris de victoire retentissaient de tous côtés. Il n'y avait plus un Turc sur les remparts, l'ennemi était battu sur tous les points. Alors seulement, Abrahamec s'aperçut du butin de sa femme. « Que veux-tu faire de ce chien de Turc ? » lui cria-t-il. « Abattons-le » Les lancers, les sabres étincelèrent sur la poitrine du malheureux qui s'était laissé tomber aux pieds de Judith et celle-ci, aussi magnanime dans la victoire que sanguinaire et impitoyable dans la lutte, cria « Que personne ne le touche, c'est mon captif, il m'appartient !»« Elle a raison !» firent plusieurs voix. « Elle se l'est bien gagné, qu'il soit son esclave !» La belle Judith lia les mains de son prisonnier et l'emmena comme un chien. Les Turcs ne tentèrent pas un second assaut. Déjà, les habitants de la ville et jusqu'au prudent Starost s'abandonnaient à l'espoir que les affreuses hordes allaient lever le siège et partir. Mais ils se trompaient. Le pacha, devant Bielopol, suivit l'exemple du grand vizir devant Zouravno. Il investit la ville afin de l'affamer. Cette tactique, inusitée chez les Turcs, était la seule juste. Malgré la fière assurance du Starost, déclarant aux parlementaires ennemis que la ville avait de quoi tenir un an, au bout de 4 semaines, le manque de provisions de bouche se fit cruellement sentir et les habitants, si vaillants dans la défense, se laissèrent gagner par le découragement. L'héroïne du ghetto se désespérait. Comme ses coreligionnaires, elle s'était vêtue de gris. Accroupie dans un coin de la maison, elle priait, jeûnait et lisait les livres saints. Un soir, le Turc, son esclave, se présenta inopinément devant elle. « Jette ces vêtements, maîtresse, lui dit-il, car tu n'as rien à craindre. Si la ville est prise par les croyants d'Allah, tu marcheras encore la tête haute, car tu es belle et prudente. Pars-toi de tes plus beaux habits, afin que notre chef jette sur toi ses regards et t'emmène vers le Levant où il n'est point d'hiver et où Dieu comble son peuple élu des dons les plus magnifiques de la nature. Tu y connaîtras une toute autre existence qu'ici dans la neige et le brouillard. La vie d'une esclave, fit Judith avec dédain. La vie d'une souveraine, reprit l'esclave, d'une reine servie par des esclaves. » La juive se redressa brusquement et considéra son prisonnier d'un regard scrutateur. « Ne te trompes-tu pas, fit-elle tout bas, es-tu sûr que ton maître, le pacha, me verra d'un œil complaisant ? Il sera ton esclave le jour où tu le voudras. Est-il jeune ? Jeune, beau et vaillant. Des richesses incommensurables remplissent sa maison et plus de 1000 esclaves lui obéissent. « Bien, dit-elle, très bien. » Un sourire éclaira son pâle et triste visage. « Veux-tu mériter ta liberté et une riche récompense ?»« Comment le pourrais-je ? Comment ?» répéta Judith qui frissonna. « En me conduisant chez ton chef. Le reste me regarde. »« Et ton maître, ton époux, objecta le Turc, il serait capable de me tuer. Il n'en saura rien. Je connais les ruelles et les sentiers qui nous conduiront inaperçus hors de la ville. Nous fuirons ce soir même. Ne suis-je pas trop belle pour souffrir la faim et la misère ? Je vais faire ma fortune, certainement. Tiens-toi donc prêt. » La jeune femme congédia d'un geste le musulman et continua de prier et de lire le livre de Judith. Le soir, elle prit un repas abondant, but un vin excitant et se para de ses plus riches habits. Une robe de soie blanche brodée de perles, relevée par une ceinture de perles également, enveloppait ses membres gracieux. Par-dessus, une tunique en drap d'or d'Orient, doublée et bordée de zibelines sombres, faisait ressortir sa taille, 2 fois désirable, sous l'obscure et caressante fourrure. Elle était chaussée de pantoufles orientales en cuir rouge brodé d'or et de perles. Dans sa chevelure foncée étincelaient des rubis et des émeraudes d'une inestimable valeur. Enveloppée d'une mante à capuchon, elle sortit de la maison par la porte de derrière, se dirigeant tout droit vers le château du Starost. « Que désirez-vous, belle et héroïque femme ? Lui demanda le Starost, sitôt qu'il l'aperçut. « Chaque faveur vous est d'avance accordée. »« Tant mieux, » répliqua Judith. « Je ne puis plus voir la misère et le désespoir de cette ville. Je veux sortir et me rendre au camp de ces barbares. Je veux me sacrifier pour le salut de tous. »« Que vous proposez-vous ? » fit le Starost épouvanté. « Ne le demandez pas, mais laissez-moi sortir, Seigneur. Je vous en conjure. Faites ouvrir pour moi la petite porte du souterrain qui conduit dans la campagne, et si Dieu veut, je sauverai votre ville. » Le Starost consentit avec répugnance. « Et votre époux » demanda-t-il, « est-il d'accord avec vous ? Il ne sait rien encore de ma décision, mais ne peut y faire obstacle. Permettez que je lui parle devant vous. » Le Starost fit appeler l'hébreu, lequel, apercevant sa femme en parure chez le Starost, les regarda tous deux d'un air de soupçon. En apprenant les intentions de Judith, il commença par déclarer qu'il n'y consentirait jamais. Puis, comme la vaillante femme se montrait inébranlable, il se mit à pleurer de rage en se jetant à ses pieds et embrassant ses genoux. Ses lamentations la laissèrent insensible. Alors, il voulut menacer et maudire. Sa femme lui coupa la parole. « N'ai-je pas toujours été une épouse loyale et fidèle ?» Abrahamek acquiesça. « Aie donc encore confiance en moi. »« Non, non, je ne te laisserai point partir, » cria le juif. Si le pacha te voit, je te perds à jamais. Je connais les femmes. Tu seras flatté de le dominer, de le voir comme un esclave à tes pieds. Non, tu ne sortiras pas de la ville. » Cruellement mortifié et blessé par le manque de confiance de son époux, la belle et audacieuse femme le toisa d'un regard méprisant et, se tournant vers le staroste, lui dit fiévreusement « Quand le salut de toute une ville est en jeu, toutes les objections doivent tomber. Si cet insensé ne veut pas me laisser partir, je vous en supplie, au nom de votre ville, de votre honneur, de votre devoir, retenez-le jusqu'à ce que j'aie quitté ses murs. » Sans attendre le consentement du staroste, elle appela les soldats qui faisaient la garde dans les vestibules et leur enjoignit d'arrêter son mari. Comme obéissant à une puissance supérieure, les soldats s'emparèrent de l'hébreu qui se débattait en vociférant et l'enchaînèrent. « Jetez-le au cachot, » commanda Judith, « et surveillez-le jusqu'à ce que le staroste vous ordonne de le mettre en liberté. » Les soldats entraînèrent Abrahamek, qui jeta sa femme un dernier douloureux regard. « Maintenant je vous laisse aller sans crainte, » dit le staroste, en s'adressant à l'audacieuse femme. « Vous êtes née pour vous faire obéir et saurez venir à bout de ces chiens de musulmans. » Les horloges de Bialopol sonnaient minuit quand, sur la lisière de la forêt, la terre parut se soulever et deux figures enveloppées de manteaux en surgirent comme des spectres. C'était la belle Judith et son esclave, se dirigeant au clair de lune vers le camp des infidèles. Le pacha rendait de grand matin justice devant sa tente. Sur une luisante peau d'ours brun étendue sur la neige, il se tenait accroupi, les jambes croisées, écoutant plaignant et accusé. Lorsque Judith et son guide entrèrent dans le cercle, le regard de la juive alla droit à celui vers qui elle se croyait envoyée par une puissance supérieure. Elle dut reconnaître qu'il ne manquait ni de beauté ni de noblesse. Son mâle visage encadré d'une barbe noire et qu'éclairait de grands yeux dominateurs avait quelque chose de particulièrement fascinant pour une femme. Un turban à aigrette de héron lui donnait l'air majestueux et la somptueuse pelisse verte, bordée de zibelines, qu'il portait par-dessus une robe étincelante de blancheur, caressait ses membres vigoureux. Bientôt, les yeux du pacha eurent découvert la belle jeune femme dans l'assistance. Il les laissa reposer avec complaisance sur elle et lui fit signe d'approcher. Ce fut le prisonnier qui s'avança et, se prosternant le visage contre terre, raconta au pacha comment il avait décidé la juive à le suivre et à fuir la ville assiégée, par le récit des exploits de son chef et dans l'espoir que ses charmes trouveraient grâce à ses yeux. Puis Judith approcha à son tour et s'agenouilla. Le pacha la fixa une fois encore, puis appela son trésorier, à qui il ordonna de délivrer un sac plein d'or au prisonnier et d'introduire la juive dans sa tente. Quand il eut rendu ses sentences, il entra dans la tente, s'étendit sur un divan et fit signe à Judith d'approcher. « Tu désires me plaire ? » commença-t-il. « Oui, Seigneur. Comment te nommes-tu ? » Judith. Et quel est le mobile qui te pousse? Viens-tu par crainte pour ta vie ou par vanité féminine? Ni l'un ni l'autre. Tu me rends curieux. On m'a dit, reprit la juive, que ton âme est généreuse et agit noblement. Je suis venu te demander la grâce de ma ville et de mon peuple. À quel prix? Je saurai le prix, répondit la jeune femme. T'estimes-tu si haut? On me dit belle, murmura Judith. Tu l'es, confirma le pacha. Une belle femme n'est-elle pas un beau prix? Tu oublies que tu es dans mon camp, et partant en mon pouvoir. Si tu agis bassement, oui, interrompit la juive, et qui gagneras-tu? Une esclave de plus, pour t'abhorrer et te maudire. Un homme tel que toi devrait être trop fier pour vouloir d'une femme autrement que par l'amour. Le Turc considéra Judith avec étonnement. Tu es une femme rare, dit-il, aussi intelligente que belle, et tu pourrais m'aimer, je ne sais pas. Essaie de me conquérir. Le pacha éclata d'un rire court et méprisant. « Il n'est pas dans nos habitudes d'implorer l'amour, comme beau chevalier chrétien. Nous ravissons celle que nous désirons et elle nous aime. Comme la colombe, le faucon qui la déchire. « Tu parles bien, » fit le pacha. « Je t'accorde ma faveur. Tu seras près de moi et auras des esclaves qui te serviront comme une princesse. » « Ce n'est pas ce que je demande, » interrompit Judith. « Des conditions, » s'écria le Turc, l'œil étincelant de colère. « Pas un mot de cela. Tu es à moi. Il n'est pas de puissance au monde qu'il puisse te reprendre. » Brusquement, il se leva et voulut prendre la jeune femme dans ses bras, mais Judith, tout aussi brusquement, tira le poignard qu'il portait dans sa ceinture et l'emmenaça. « Si tu me touches, je te tue. » « Étrange femme, » murmura le pacha. Puis, avançant vers l'entrée de la tente, il frappa dans ses mains. Deux nègres se présentèrent aussitôt. Il leur commanda d'installer une tente pour la nouvelle venue, avec tout le luxe et la commodité désirables, et de lui donner deux prisonnières pour la servir. Il conjugua Judith avec hauteur et celle-ci sortit, emportant, sans y penser, le poignard. Les choses se passèrent pour elle ainsi que son prisonnier le lui avait prédit. Au bout de quelques jours, l'impérieux pacha était devenu son esclave. Plus elle se montrait fière, froide et vertueuse, plus l'oriental se sentait enflammé de passion. Accoutumé à acheter ses femmes, comme ses tapis persans et ses fourrures moscovites, au bazar de Stamboul, il s'irritait de cette résistance. Mais quel que fût le désir qu'elle lui inspira, il se raillait des conditions qu'elle prétendait lui imposer. Un soir, le pacha était dans sa tente, accroupi au pied de la juive, lorsqu'on vint annoncer un transfuge amené par deux soldats. Judith pâlit en le reconnaissant. C'était son mari, qui, poussé par la jalousie, avait échappé à ses gardiens et quitté la ville, avec l'intention de tuer celui qu'il considérait comme le ravisseur de sa femme. Le pacha allait le questionner, quand brusquement il se jeta sur lui. Le turc, prompt comme l'éclair, s'esquiva, et d'un coup du revers de sa main, étendit à terre son agresseur et lui posa son pied sur la nuque. Les soldats l'enchaînèrent aussitôt. Abraham, maigre, tremblant, regarda son juge dont il ne pouvait espérer de miséricorde. Tout à coup, il s'écria « Prends garde à celle-ci, elle n'est là que pour t'assassiner !» Le pacha se retourna vers Judith. « Connais-tu cet homme ? » demanda-t-il. « Comment ne le connaîtrais-je pas ? » dit-elle avec calme. « C'est mon mari. » La jalousie l'a poussé dans ton camp et à cet acte insensé. « Et qu'as-tu à répondre à son accusation ?»« Si mon intention avait été de te tuer, pourquoi l'eût-il lui-même essayé ?»« C'est juste, » répliqua le chef. « Je te crois, Judith, et pour que cet homme, qui t'accuse injustement, soit puni selon son crime, tu décideras toi-même du châtiment, le plus cruel que ta ruse de femme pourra imaginer. » La belle Judith parut réfléchir. « Fais-le étendre sur un grill et allumer un feu dessous, » dit-elle après un moment. Abrahamek jeta à sa femme un regard épouvanté et commençait à maudire le jour de sa naissance. « Trouve mieux, » dit le pacha. « Ordonne qu'on l'attache à un pieu, la tête en bas, au-dessus d'une fourmilière. Ce châtiment serait encore trop doux. »« Tu as raison, » convint Judith. « Eh bien, pour son plus grand tourment, laisse-le vivre. Qu'entends-tu par là ? Vivre comme un esclave, comme un chien que tu pousses du pied pendant qu'il verra comme je t'aime. » « Tu es une femme avisée, Judith !» murmura le pacha en souriant. « Qu'il en soit fait comme tu l'as dit. Il vivra et sera mon esclave. » Le juif poussa un gémissement. Son nouveau maître s'approcha de lui et le toisa d'un regard méprisant. « As-tu entendu, esclave ? Tu es à mon service et malheur à toi, si tu te montres désobéissant ou maladroit. Détachez-le !» Les soldats obéirent. Le pacha saisit le fouet qui lui servait à châtier ses serviteurs et d'un ton qui excluait toute résistance, commanda « À genoux !» Le malheureux juif se prosterna en tremblant dans la poussière. Le pacha le considéra avec un sourire qui fit se glacer le sang de la belle Judith. Il faisait nuit. Abrahamek, le riche négociant, était couché à l'entrée de la tente de son maître, vivant dans la crainte incessante des coups de fouet et maudissant sa femme dont il se croyait trahi. Soudain, une petite main le toucha à l'épaule. Judith se trouvait devant lui. « Damnée traîtresse, que me veux-tu » commença l'esclave du pacha. « Silence, pas un mot. Veille à cette place jusqu'à mon retour. Je vais accomplir mon œuvre. » Judith disparut brusquement de la tente. Le juif eut comme le pressentiment de ce qui se passait, car il se leva et fit le tour de la tente, veillant à ce que personne ne survienne. Quelques minutes pleines d'angoisse s'écoulèrent. Puis Judith s'avança, mortellement pâle, mais d'un pas décidé. « Suis-moi, » commanda-t-elle. Les sentinelles du camp, qui connaissaient Judith, la laissèrent passer. Ils arrivèrent à la forêt. Aucun des deux ne prononça une parole. Lorsqu'elle eut retrouvé la dalle qui fermait le souterrain, Judith fit signe à son mari de la soulever. Il obéit, et elle descendit dans l'abîme, marchant devant lui dans l'obscurité des couloirs. Il continua de la suivre en silence. Parvenue à la cour du château, Judith s'assit sur une pierre en disant « Va chez le staroste et dis-lui que c'est fait. »« Tu as tué le pacha ?» s'écria Abrahamek, joyeusement surpris. « Oui, je l'ai assassiné. murmura Judith, qui perdit connaissance. L'angoisse et l'émotion l'avaient terrassée, mais bientôt on la rappela à elle et le peuple l'acclama. Le staroste monta sur les remparts pour observer le camp des infidèles. Aucune agitation ne s'y faisait remarquer. Le soleil était déjà à son zénith, que le camp des infidèles était encore plongé dans le plus profond silence. Le jour passa, le soir vint et la nuit, sans que les assiégeants eussent trahi la moindre inquiétude. Mais au matin, l'emplacement que les Turcs avaient occupé se trouva désert, l'ennemi avait disparu. On crut d'abord à une ruse de guerre et l'on n'osa point ouvrir les portes. Mais quelques gentilshommes étant allés en éclaireur dans les environs, revinrent avec l'heureuse nouvelle que ni de près ni de loin, on ne voyait plus trace d'envahisseurs. La population, débordante de joie, vint en masse remercier Judith. Elle fut portée en triomphe et l'on décora sa maison avec des branches de sapin. Quelques semaines plus tard, le roi Sobieski put se tirer, lui et son armée, de leur situation critique en offrant aux Turcs une indemnité de guerre. Un traité de paix fut conclu. Les Turcs conservèrent la partie de l'Ukraine qui se trouve derrière le Dniepr et toute la Podolie avec la forteresse Kamiennik-Podolski. Ainsi s'achève la Judith de Bialopol par Léopold von Sacher-Masoch.